Tout de suite, c'est le journal d'Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Édouard Philippe dévoile à Lille en ce moment un plan qui vise à lutter contre la radicalisation. Il va concerner les prisons, comportera aussi des actions en direction des jeunes. Premiers éléments de ces révélations avec Stéphane Robert, commentaire de Florence Sturm. Les partenaires sociaux finalisent un accord sur la réforme de l'assurance chômage, mais ils demandent au gouvernement de s'engager à le respecter, respecter l'intégralité de ce texte avant d'y apposer eux-mêmes leur signature. Explication avec Annabelle Grelier. Les dirigeants européens réunis à Bruxelles, ils débattent du budget de l'Union après 2020, c'est-à-dire après le départ du Royaume-Uni. Le Brexit qui laisse en fait dans les finances de l'Union un trou évalué à plus de 10 milliards d'euros par an, suivi des débats avec Pierre Benazé. L'enclave de la Ghouta orientale dans l'est de la Syrie, encore sous les bombes ce matin. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunira encore cet après-midi pour se prononcer sur ce projet de résolution d'une trêve de 30 jours, suivi des débats avec Nadine Epstein et puis l'invité de la séquence interview, notre confrère Philippe Frémaux, éditorialiste au magazine Alternative Économique, auteur d'un livre intitulé « Après Macron » aux éditions Les Petits Matins, dans la dernière partie de la Grande Table. Olivia Jesbert.
Alors que le gouvernement a ce mois-ci dévoilé les grandes lignes de son futur plan santé, retour sur les nouveaux défis de la politique de santé avec un observateur avisé, Didier Tabuteau, qui est responsable de la chaire santé de Sciences Po à Paris et co-directeur de l'Institut Droit et Santé, et qui sera notre invité donc dans la deuxième partie de la Grande Table.
Édouard Philippe, le Premier ministre en ce moment à Lille pour ce nouveau plan contre la radicalisation djihadiste au terme d'un comité interministériel qui a donc rassemblé ce matin une dizaine de membres du gouvernement. Nicole Belloubet pour la justice, Gérard Collomb pour l'intérieur, Jean-Michel Blanquer pour l'éducation et notamment Laura Flessel pour la jeunesse. Et bien donc ce plan national de prévention de la radicalisation est annoncé. Il comportera une soixantaine de mesures. Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour. Alors, bonjour. Oui, bonjour Antoine.
Le Premier ministre vient tout juste de commencer donc à évoquer les principales mesures de ce plan.
Oui, effectivement, il est en train de s'exprimer en ce moment même. Alors, il a annoncé là tout de suite la création de 1500 places en prison pour isoler les détenus radicalisés. En fait, on change complètement de philosophie, si vous voulez. La philosophie jusqu'ici était de les disséminer un petit peu dans les différents établissements pénitentiaires. Là, on va les isoler. Après la grogne et la mobilisation des surveillants de prison, il n'était pas question de rester sur une forme de constat d'échec. Hein. Et donc on va là les regrouper avec en créant également des quartiers spécifiques hein, pour les détenus les plus dangereux. On a décidé apparemment également d'abandonner ce qui avait été expérimenté, le centre de déradicalisation de Pontourny. Là, il y a eu un constat d'échec et il y a trois nouveaux centres qui vont s'ouvrir. Des centres où on va placer des gens qui feront le suivi, un suivi socio-éducatif des détenus. Et donc, c'est une nouvelle expérimentation qui va.
Ouais, on en précisera ça dans un instant avec Florence Turne. Pour le reste, Stéphane Robert.
Oui, alors pour le reste, il y a, si vous voulez, c'est un plan un peu tous azimuts. On va mettre l'accent sur la prévention. C'est le constat que fait le Premier ministre, c'est que jusqu'ici, avec les deux précédents plans 2014 et 2016, on avait mis l'accent sur la radicalisation terroriste. Là, c'est beaucoup plus large, puisqu'on s'est aperçu finalement qu'il y a des phénomènes de radicalisation dans la fonction publique. Donc il y a un certain nombre de mesures qui vont être prises, notamment des fonctionnaires dont on constate une dérive dans le comportement et qui s'occupent des questions de sécurité et défense vont pouvoir être écartés de leurs fonctions. On va les placer ailleurs, hein, en quelque sorte. Et puis à l'école, il y a une vraie mobilisation qui va se mettre en place pour essayer de prendre en charge les petites dérives qu'on connaît en termes de mise en cause de la laïcité et des principes et des valeurs de la République. Donc il va y avoir une formation des enseignants sur cette question-là, puis une tentative de détection, notamment dans les établissements hors contrat. Voilà, c'est un plan très très large. Hein. Je ne peux pas vous détailler toutes les mesures qui vont être prises,
d'autant plus que encore en train d'être dévoilé par le Premier ministre. Merci beaucoup Stéphane Robert. Donc pour ces premiers éléments, on voit cet aspect prison que vous évoquiez au début de cette intervention qui semble assez centrale dans ce plan. C'est en tout cas le volet qui était le plus attendu. Il faut rappeler que sur près de 70 000 détenus en France, il y en a plus de 500 qui sont actuellement incarcérés pour des faits de terrorisme. Et puis, il y a plus d'un millier, 1139, dit-on, prisonniers de droit commun qui ont été identifiés comme radicalisés, Florence Durmé.
Oui, la prison reste un enjeu majeur de la lutte contre la radicalisation. Ce n'est certainement pas un hasard si ce déplacement interministériel a débuté ce matin par la visite de Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, à la prison de Lille-Annelin. Et vous le disiez, Antoine, 512 détenus actuellement incarcérés pour des faits de terrorisme, plus d'un millier de prisonniers de droit commun identifiés comme radicalisés. Il s'agit donc à la fois de poursuivre le travail de détection, d'assurer la sécurité des personnels pénitentiaire. On se souvient du vaste mouvement de protestation des surveillants déclenché par la violente agression d'un gardien le mois dernier. Prévenir aussi le phénomène de contagion au sein des établissements pénitentiaires. Donc à Lille, un quartier dédié a ouvert en janvier 2016 où les détenus n'ont aucun contact avec le reste de la prison pour éviter tout risque de prosélytisme. Initiative encore trop récente pour en dresser le bilan mais saluée par Nicole Belloubet et que l'on devrait dupliquer prochainement à Condé-sur-Sarthe et Vendin-le-Veil, là où s'était produite l'agression de janvier, les 1500 places dont parlait un instant Stéphane Robert. Un principe de regroupement et d'isolement qui se double d'un suivi individualisé avec un programme de désengagement de la violence. On notera au passage le nouvel élément de langage, désengagement pour remplacer le terme de déradicalisation, sans doute plus mesuré, notamment après certains échecs cuisants comme celui du centre de Pontournier en Indre-et-Loire, basé sur le principe du volontariat et définitivement fermé après moins d'un an de fonctionnement. Le suivi des personnes radicalisées en milieu ouvert reste cependant à l'ordre du jour, a fortiori avec le phénomène des revenants des zones de combat et la sortie de prison des individus condamnés pour terrorisme, 70 à l'horizon 2020. Depuis un an, la région parisienne expérimente en grande discrétion le programme RIVE, recherche et intervention sur les violences extrémistes, une prise en charge en milieu ouvert d'une quinzaine de personnes et qui devrait être étendue notamment à Lille, Lyon et Marseille. Édouard Philippe devrait le confirmer.
Merci beaucoup. Florence Turme, donc, on notera ce glissement sémantique, effectivement, de déradicalisation à désengagement. Mais enfin, l'engagement n'est pas forcément une mauvaise chose. On verra ça tout à l'heure avec notre invité Philippe Frémaux. Que se passe-t-il dans les négociations sur la réforme des régimes sociaux, assurance chômage et formation professionnelle, alors que les partenaires sociaux bouclent un premier accord sur la formation professionnelle, c'était avant-hier. La ministre annonce que l'accord ne va pas être repris dans sa totalité. Eh bien, résultat, au moment de finaliser le deuxième accord donc de la journée sur le chômage, les négociateurs prennent maintenant leurs précautions et ils demandent au gouvernement de s'engager à respecter l'intégralité de leur texte avant d'y apposer eux-mêmes leur signature. Annabelle Grelier, bonjour.
Bonjour Antoine.
C'est un peu curieux, on avait l'habitude que le gouvernement se satisfasse du fait que les partenaires sociaux trouvent un accord sans qu'il ait à intervenir dans la question. Or voici qu'il paraît vouloir quand même intervenir malgré l'accord. Comment ça se fait ?
Ça échaude et craint l'eau froide. Et comme la ministre du Travail est intervenue hier à l'issue des négociations sur la formation professionnelle en promettant un Big Bang, forcément les négociateurs sur l'assurance chômage craignent le même scénario. Et de fait, ont peur de perdre la main sur l'accord et puis par conséquent de perdre la face à leur tour. Ils se sont donc assurés à travers le texte d'accord de garder la gouvernance sur la gestion de l'assurance chômage. D'ailleurs, ce matin, Force Ouvrière annonce qu'il vient de signer l'accord sur la formation professionnelle. Il est le fruit de l'opiniâtreté syndicale, affirme le syndicat, tout en mettant en garde le gouvernement sur la façon qu'il aura ou non de respecter la négociation entre interlocuteurs sociaux. La liberté de négociation ne se découpe pas en rondelles et tout Big Bang peut avoir un effet boomerang, menace le syndicat.
Est-ce que ce Big Bang peut menacer ou remettre en cause le contrat social existant ?
Eh bien, d'une certaine manière, il en remet en cause au moins le fonctionnement. Déjà, le gouvernement avait donné lui-même sa feuille de route sur ces négociations. Dans le document d'orientation pour l'assurance chômage, le gouvernement avait demandé aux partenaires sociaux d'ouvrir les droits aux démissionnaires, d'étendre le régime aux indépendants et de trouver un dispositif pour lutter contre les contrats précaires. Et il avait déjà menacé d'intervenir s'il ne trouvait pas d'accord sur ces sujets, avec notamment le bonus-malus pour les contrats courts. Alors, si on parle de contrat social, est-il déjà respecté entre partenaires sociaux quand le patronat refuse par exemple de lâcher sur les points de cotisation ou bien sur des sanctions financières sur des contrats courts et que des négociations sont bloquées ? Ensuite, le contrat social, quelle part doit y prendre le gouvernement ? Doit-il en changer la nature ou la forme ? C'est la question qui se pose réellement et Emmanuel Macron avait semblé assez clair lors de sa campagne présidentielle. Oui, il veut remettre l'État au centre des décisions et forcément cela bouscule les partenaires sociaux qui, comme la CFE-CGC par exemple, se demandent ce matin s'il serait toujours utile de prendre une décision si tout est déjà décidé en amont. Les syndicats en tout cas ne semblent pas prêts à laisser le gouvernement empiéter sur leur plate-bande. Nous ne saurons pas être des sous-traitants gouvernementaux, affirmé ce midi Force Ouvrière.
Merci beaucoup Annabelle Grolier. Nous saluons notre invité Philippe Frémaux, éditorialiste au magazine Alternative Économique. Comment est-ce qu'on peut décrire ce qui est en train de se passer? On parle souvent de l'attaque contre l'intermédiation, ce qui fait médiation. Est-ce qu'on peut dire ça, que le pouvoir d'en haut reprend le pouvoir sans les intermédiaires?
Alors, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, finalement, on n'a pas réellement des gens qui ont une histoire politique au pouvoir. On a désormais, en direct, aux manettes, des gens qui sont des technocrates. Je veux dire, quand vous regardez l'entourage immédiat d'Emmanuel Macron, c'est des proches, c'est des gens de l'inspection des finances, de la direction du Trésor, qui ont une grosse influence sur les gouvernants depuis des décennies. Mais là, désormais, il n'y a plus de paravent. Ils sont aux manettes. Ils pensent qu'ils savent tout mieux que les autres. Ils pensent qu'ils sont plus efficaces, puisque c'est le mot-clé, l'efficacité, sans qu'on sache l'efficacité pourquoi. Ça n'est jamais précisé. Et donc, ils disent, nous, on va y aller franchement. Et ces corps intermédiaires, finalement, ça fait partie des vieux conservatistes, des lobbies qui veulent que rien ne change, et on y va. Et alors, en plus, il n'y a aucun contre-pouvoir réel, parce que les ministres qui sont en charge des dossiers techniques importants, si vous prenez le travail, la santé, les affaires sociales, l'éducation, c'est des technos, sans aucune assise politique et qui sont donc totalement dépendants du président. Et si vous prenez l'Assemblée nationale, elle est largement composée de gens qui ont été recrutés sur CV et entretien comme des salariés qu'on embauche dans une entreprise, et eux aussi sont totalement dépendants finalement de celui qui les a recrutés. Donc on a très peu de contre-pouvoirs et des corps intermédiaires qui sont jugés illégitimes.
Alors les corps intermédiaires, est-ce qu'il pourrait y avoir une forme de réforme malgré tout de la manière dont ils fonctionnent sans les réduire à ce point-là?
Oui, alors là, c'est une excellente question, cher Antoine Mercier, parce que dans le même temps, on sait très bien qu'il y a aussi des effets un peu de fossilisation. Et l'attitude de Macron, qui est « moi je dirige, j'ai une pratique verticale du pouvoir », elle répond aussi à une attente de l'opinion, notamment face à un président précédent, dont on jugeait qu'il était un peu lent parfois à la prise de décision. Donc là, finalement, il fait un peu comme Jospin faisait. C'est-à-dire, j'ai dit ce que j'allais faire, je le fais, bon, et maintenant j'ai été élu, laissez-moi faire et on me jugera ensuite sur le résultat. La différence, c'est que Jospin, il l'a fait, notamment pour imposer la loi sur les 35 heures contre les partenaires sociaux et notamment le patronat. Là, on a plutôt l'impression que ça penche dans l'autre sens, puisque sur les ordonnances travail, toutes les demandes du MEDEF ont été satisfaites et en revanche, les demandes des syndicats réformistes, y compris réformistes comme la CFDT, de contre-pouvoir syndical n'ont pas été satisfaites. Et si vous prenez la volonté de balayer les lobbies pour être efficace, pour rendre la société plus fluide, pour que les premiers de cordée puissent s'exprimer et que chacun puisse être l'entrepreneur de sa propre vie, pour reprendre le discours macroniste, on voit bien dans le même temps qu'il y a des lobbies finalement auxquels on ne touche pas trop. Je veux dire, les professions de santé sur la question de l'accès aux soins en région, là, il faut y aller doucement. Les agriculteurs, on reste quand même dans quelque chose de très modéré, même si on a cédé un peu sur le glyphosate, etc. Et le lobby nucléaire, n'en parlons pas.
Alors, on va parler maintenant de l'Europe, Philippe Frémaux, puisqu'il y a un sommet européen pour organiser l'Europe. D'après le départ de la Grande-Bretagne, les dirigeants européens sont donc réunis à Bruxelles pour débattre, et c'est la première fois, à 27 du budget de l'Union après 2020, donc après le départ des Anglais. Le Brexit qui crée en fait un casse-tête budgétaire, le trou qu'il va laisser dans les finances de l'Union est évalué à plus de 10 milliards d'euros par an. Et les 27 vont aussi évoquer une autre question, c'est le mode de désignation du successeur de Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission. Ça fait beaucoup de sujets importants. Pierre Benazet, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors, sur l'un et l'autre sujet, donc financier, institutionnel, on ne peut pas dire que le départ des Britanniques améliore finalement la cohésion des 27 restants, comme on aurait pu l'imaginer. On a presque le sentiment que c'est le contraire qui aiguise ce départ, quelques divergences au sein de l'Europe.
Effectivement, l'état des négociations intra-européennes actuelles contredit ceux qui disaient que le Brexit allait faciliter le fonctionnement européen. C'est vrai que malgré l'absence du Royaume-Uni aujourd'hui, une ombre britannique s'étendra sur une grande partie des débats de ce sommet. D'abord sur cette question que vous évoquiez, celle du budget propre de l'Union européenne. Il représente actuellement 1% du PIB de l'ensemble des pays. La Commission propose de le porter à 1,1%. Le Parlement européen va plus loin encore, propose 1,3% du PIB des 27. Ceci, c'est le scénario ambitieux, celui qui est soutenu par les pays qui estiment, comme la France et l'Allemagne, que l'Europe doit se donner les moyens d'ambitions plus poussées, et cela sans raboter d'ailleurs ni sur les programmes de long terme déjà lancés, ni par exemple sur la politique agricole commune, ce que la France veut éviter. C'est aussi le point de vue des pays qui reçoivent plus qu'ils ne donnent, particulièrement en Europe centrale et orientale. Mais les débats des 27 promettent d'être véritablement sanglants parce que certains pays préconisent de faire des économies, en particulier dans le nord de l'Europe, Pays-Bas, au Danemark par exemple, qui ne voient pas de nécessité absolue de compenser l'arrêt au 31 décembre 2020 de la contribution financière britannique. Certains voudraient même conditionner le versement de certaines aides au respect de l'état de droit, ce qui fait évidemment hurler les pays visés, à savoir les pays d'Europe centrale, du groupe de Visegrad. Il y aura aussi un débat difficile sur la redistribution des sièges britanniques au Parlement européen, puisque les eurodéputés ont proposé de répartir un tiers de ces sièges entre les plus grands pays, mais ont rejeté les listes transnationales préconisées pourtant, entre autres, par la France. Et il y aura surtout, effectivement, la question de savoir si le futur président de la Commission européenne devra automatiquement être une des têtes de liste de la campagne de l'an prochain, ce que le Parlement voudrait imposer au gouvernement, alors que les capitales voudraient éviter de se voir forcer la main.
Merci beaucoup Pierre Benazet, en direct donc de Bruxelles à l'ouverture de ce sommet européen. Effectivement, le Parlement actuel a lancé un message très clair aux 27 États membres. Il exige, le Parlement européen, que le candidat qu'ils vont choisir en 2019 pour diriger l'exécutif européen soit une des têtes de liste qui a été sélectionnée par les partis politiques européens. On sait que le président Macron est opposé à cette procédure, qu'il va suivre attentivement les discussions sur les listes transnationales pour les élections européennes. C'est une idée toutefois qui a été enterrée déjà par le Parlement, en tout cas pour le scrutin de 2019. Anne Fauquemberg, on ne voit pas bien comment se présente la stratégie du président Macron vis-à-vis de cette question européenne maintenant, avant les élections.
Oui, Emmanuel Macron est soumis à cette équation au Parlement de Strasbourg avec sa formation politique naissante. Se dissoudre ou se réduire. Alors, se dissoudre dans une famille politique, la plus proche de La République En Marche est l'ADLE, l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe. C'est là que siège le MoDem, par exemple, famille dirigée par le très libéral Guy Verhofstadt. On est un peu loin des appels au peuple affichés lors du discours de la Sorbonne du chef de l'État. Le chef de l'État qui a donc veut refonder l'Europe dans un nouveau clivage entre progressistes pro-européens et conservateurs eurosceptiques. Il pourrait aussi décider donc de créer son propre groupe, c'est possible. Il lui suffirait de réunir au minimum 25 députés européens sous son étiquette, issus de 7 États membres différents, un petit peu moins facile, et ça suppose aussi d'accepter d'avoir une force de frappe un peu plus réduite qu'à l'échelle d'une vraie famille politique. Ce qui est sûr, c'est qu'Emmanuel Macron n'exclut pas cette option, puisqu'une task force est en train de se former à Bruxelles. Elle est dirigée par le député LREM des Français de l'étranger, Pierre-Alexandre Anglade. Ce trentenaire est un fin connaisseur des rouages du Parlement européen. Il a travaillé pendant 4 ans avec l'eurodéputé MoDem Nathalie Griesbeck avant d'occuper des fonctions de directeur de cabinet auprès d'un eurodéputé tchèque, issu lui aussi des rangs de l'ADLE. Emmanuel Macron qui fera sa première intervention devant le Parlement de Strasbourg le 17 avril prochain. Le chef de l'État qui sans aucun doute aura trouvé d'ici là son en même temps de rigueur.
Merci beaucoup Anne Fauquemberg. Sur cette question, Philippe Rémaud, pardon. Est-ce qu'on a le sentiment que Macron veut faire sauter aussi ce clivage droite-gauche au niveau européen, mais que c'est évidemment beaucoup plus difficile? Est-ce qu'il va y arriver?
Il y a un paradoxe, pour rebondir sur votre intervention, qui est que s'il y a un niveau où ce, en même temps, devrait fonctionner, c'est bien le niveau européen, puisque le Parlement européen, d'un certain point de vue, il est largement co-géré par une gauche relativement modérée, une droite également modérée, avec deux groupes qui sont tous deux pro-européens, qui jusqu'à présent
se sont partagés
de manière paritaire à la présidence sur chacune moitié de mandat. Donc, comme les clivages sont plutôt des clivages entre pro-européens et souverainistes au niveau du Parlement européen, normalement, ça pourrait le faire. Ce qui est plus compliqué, c'est que, de fait, Macron, dans l'offre politique qu'il a fait en France, il a beaucoup insisté sur le fait qu'il fédérait tous les pro-européens de gauche et de droite, les partisans de l'ouverture, contre les partisans du repli. Ce qui est une bonne manière, même en étant minoritaire, au fond, en France, en rejetant à gauche avec Mélenchon et à droite avec Marine Le Pen, ceux qui sont souverainistes, c'est un moyen finalement d'occuper une place centrale qui lui assure finalement sa survie, puisque les autres sont divisés. Mais en même temps, très concrètement, au niveau européen, je veux dire, à la fois, il a un discours très pro-européen et on l'attend là-dessus, mais en même temps, la pratique qu'il a eue, c'est plutôt une pratique de dumping social et fiscal qui joue plutôt dans la concurrence entre États et qui ne va pas forcément dans le sens d'une Europe plus fédérale et plus solidaire, qui est celle que beaucoup de pro-européens critiques appellent de leur vœu.
À propos de l'Europe, encore une question, parce que le président de la Commission, justement, Jean-Claude Juncker, a fait une conférence de presse hier à Bruxelles et il a mis en garde contre une réaction forte des marchés après les élections en Italie. il appelle à se préparer au pire des scénarios. Il dit, si on combine toutes les incertitudes, donc il parlait donc de ce référendum interne des sociodémocrates allemands sur l'accord de coalition, les élections italiennes, c'est pour bientôt, mais aussi tout ce qui peut se passer au niveau des régions en Europe. Il dit, ça va faire peut-être que la seconde semaine de mars est très critique et on se prépare au pire. Qu'est-ce que ça signifie, cette déclaration?
Ça signifie simplement qu'au niveau des élections italiennes qui vont se dérouler, on a un certain nombre de partis, notamment la Ligue du Nord, hein, qui aujourd'hui dans les sondages a un niveau plutôt comparable, voire supérieur au parti de Berlusconi, qui sont sur une ligne extrêmement anti-européenne et extrêmement souverainiste. Et donc, le risque, dans le cas effectivement d'une victoire électorale de cette coalition, c'est que les marchés pensent que l'Italie va finalement être sur une voie qui pourrait l'amener à sortir de l'euro, ce qui pourrait faire exploser de nouveau les taux d'intérêt qui sont exigés de l'Italie pour le refinancement de sa dette. Et donc, je pense que c'est à ça que Juncker faisait allusion.
Et puis, l'Allemagne aussi, finalement, on a l'impression que c'est très difficile de trouver cette coalition et qu'elle n'est pas très satisfaisante au total.
Là, on voit bien d'ailleurs qu'Emmanuel Macron est très soucieux de voir le SPD s'allier avec les chrétiens démocrates, mais dans le même temps, on voit bien que le SPD aujourd'hui laisse des plumes à cette alliance, puisque dans les derniers sondages, il a été dépassé malheureusement par le parti d'extrême droite.
Merci beaucoup Philippe Frémaux. Après Macron, c'est édité aux éditions Les Petits Matins, votre dernier livre donc paru cette année. Ce matin, lors d'une conférence de presse des donateurs encore à Bruxelles, les dirigeants européens donnent un coup de pouce politique et financier à la force militaire qui est constituée par 5 pays africains pour lutter contre les groupes djihadistes actifs dans la région du Sahel. L'Union européenne confirme donc à cette occasion sa décision de doubler sa contribution à la force militaire conjointe du G5, portée de 50 à 100 millions d'euros. Et d'autres annonces sont attendues au cours de la réunion. L'Union a dit notamment la représentante de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. Les avions de combat qui bombardent toujours depuis ce matin l'enclave de la Ghouta orientale dans l'est de la Syrie. Des frappes qui sont décrites d'ailleurs par un témoin comme les pires de la série en cours. Et le Conseil de sécurité qui continue de se réunir, qui va encore se retrouver cet après-midi pour tenter de se prononcer enfin sur ce projet de résolution qui prévoirait une trêve de 30 jours en Syrie, qui permettrait l'acheminement de l'aide humanitaire, l'évacuation des blessés, des malades. Nadine Epstein, bonjour.
Bonjour.
Alors faut-il enfin s'attendre à un vote cet après-midi?
Enfin, pour éviter que la Russie utilise une nouvelle fois son droit de veto, Moscou l'a déjà fait à 11 reprises, le Conseil de sécurité de l'ONU a légèrement modifié sa résolution après quand même, faut-il le rappeler, 2 semaines de vaines négociations. Donc, le texte qui devrait être soumis tout à l'heure à New York demande un cessez-le-feu et non plus décide d'un cessez-le-feu, et ce cessez-le-feu ne s'appliquera pas, je cite, aux individus, groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaïda et au groupe État islamique. Un aménagement de texte pour répondre au ministre russe des Affaires étrangères qui estime que l'activité diplomatique des Occidentaux aux Nations Unies consiste à faire porter à la Syrie l'entière responsabilité des combats meurtriers de la Ghouta et de dédouaner les groupes armés anti-Damas. Cette résolution en faveur d'un cessez-le-feu de 30 jours se veut être un cessez-le-feu humanitaire pour d'une part laisser entrer en urgence nourriture, médicaments et matériel de soins, et d'autre part organiser des évacuations sanitaires dans ce fief rebelle de 400 000 habitants dans la banlieue de Damas. Mais les Russes accusent les Occidentaux de vouloir promouvoir un plan B, à savoir effectuer un changement de régime en Syrie, alors qu'ils estiment que ce sont les groupes armés islamistes qui utilisent la population civile de la Ghouta comme bouclier humain. Et pendant ce temps-là, vous l'avez dit, pour la 6e journée consécutive, des avions de combat ont bombardé l'enclave et au moins 450 personnes ont été tuées, plus de 2000 autres blessées depuis dimanche. Une douzaine d'hôpitaux ne fonctionnent plus et un coordinateur humanitaire des Nations Unies pour la Syrie d'ajouter que les maisons étaient privées d'électricité et d'eau en plein hiver et dans certaines communes, 80% des habitants vivent sous terre.
Merci Nadine Epstein. J'ajoute que l'armée turque a bombardé aussi, et alors sur un autre front, le front du Nord, un convoi qui entrait dans le secteur d'Afrin, qui est là le théâtre depuis un mois d'un conflit armé qui oppose les militaires turcs et des miliciens kurdes. Ils disent avoir visé des véhicules transportant des combattants et des armes, mais selon les forces kurdes, ce convoi acheminait des civils qui apportaient de la nourriture et des médicaments à destination des populations civiles. Voilà donc les dernières nouvelles du front, de ces divers fronts en Syrie. L'actualité se termine maintenant avec le bulletin météo traditionnel, un temps en 3 mots, froid et sec. perturbée encore sur l'extrême sud-est, des températures qui iront de 1 à 14 degrés du nord au sud. Cette édition a été réalisée avec Brice Garcia, 17h, n'oubliez pas le magazine de la rédaction, qui s'intitule « À l'école des mutations agricoles ». C'est un reportage d'Anne-Laure Chouin, réalisé avec Yacine Bouzard, présenté par Tara Schlegel. Le prochain journal est à 18h avec Antoine Marette.